Audiolib présente Espère du pape François. Traduit de l'italien par Françoise Bouillot et Samuel Sfez. Lu par Mathieu Buscato. Droit et sincère. Ils sont ce qu'ils paraissent être. Tête carrée, pouls régulier et foi sain. Ils parlent peu, mais ils savent ce qu'ils disent. Même s'ils marchent lentement, ils vont loin. Nino Costa. L'avenir entre en nous pour se transformer en nous, longtemps avant que de survenir. Rainer Maria Rilke. Lettre à un jeune poète. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Saint Paul, première lettre aux Corinthiens. Introduction. Tout naît pour fleurir. Le livre de ma vie est le récit d'un chemin d'espérance que je ne peux pas imaginer disjoint de celui de ma famille, de mes proches, du peuple de Dieu tout entier. Il est aussi à chaque page, à chaque pas, le livre de ceux qui ont cheminé à mes côtés, de ceux qui m'ont précédé, de ceux qui me suivront. Une autobiographie n'est pas une affaire privée, mais plutôt un sac de voyage. La mémoire n'est pas seulement ce dont nous nous rappelons, mais ce qui nous entoure. Elle ne parle pas uniquement de ce qui a été, mais aussi de ce qui sera. La mémoire est un présent qui n'en finit jamais de passer, dit un poète mexicain. Cela semble hier, et en réalité c'est demain. On dit communément « attend et espère », au point qu'en espagnol, le mot « esperar » signifie autant « espérer » qu'attendre. Mais l'espérance est surtout la vertu du mouvement et le moteur du changement. C'est la tension qui unit la mémoire et l'utopie pour construire véritablement les rêves qui nous attendent. Et si un rêve s'effiloche, il faut recommencer à le rêver sous des formes nouvelles, en puisant avec espérance dans les braises de la mémoire. Nous, les chrétiens, devons savoir que l'espérance n'est ni une illusion ni une tromperie. Tout naît pour fleurir dans un éternel printemps. À la fin, nous dirons simplement « Je n'ai pas souvenir d'un lieu où tu ne sois pas. » Prologue. Par la suite, ils racontèrent qu'on avait ressenti une terrible secousse, comme un tremblement de terre. Tout le voyage s'était accompagné de fortes et inquiétantes vibrations, et l'inclinaison du navire était telle que le matin, on ne pouvait pas poser sa tasse de café au lait parce qu'elle se serait renversée. Mais cette fois, il s'agissait d'autre chose. Cela ressemblait à une explosion, comme une bombe. Les passagers jaillirent des salons et des cabines et se ruèrent sur le pont pour essayer de comprendre ce qu'il pouvait bien se passer. On était en fin d'après-midi, et le navire se dirigeait vers Porto Seguro sur la côte du Brésil. Ce n'était pas une bombe, un grondement sourd plutôt. Le paquebot avançait toujours, mais sa course était devenue folle, comme un cheval emballé. Il donnait fortement de la bande et il ralentissait. Un homme qui était resté dans l'eau pendant des heures, agrippé à un fragment de planche, témoignerait plus tard qu'il avait vu clairement l'hélice et l'arbre du moteur de gauche se détacher complètement. L'hélice, apprit-on par la suite, avait fait une longue déchirure dans la coque. L'eau entrait à flot, inondant la salle des machines. Et elle n'allait pas tarder à envahir la soute, puisqu'il semblait bien que les portes étanches ne fonctionnaient pas. Ils racontèrent que quelqu'un tenta de colmater la brèche avec des panneaux métalliques en vain. Ils racontèrent que l'orchestre reçut l'ordre de continuer à jouer, sans trêve. Le navire s'inclinait de plus en plus. L'obscurité tombait, la mer grossissait. Quand il fut évident que la situation était grave, le commandant donna l'ordre d'arrêter les machines. Il fit retentir la sirène d'alarme et les radios lancèrent le premier SOS. Le signal de détresse fut capté par plusieurs bateaux, deux cargos et même deux transatlantiques qui se trouvaient dans les parages. Ils se portèrent immédiatement à son secours